Bonjour à tous, de bonne année tout ça. Vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont vous pouvez trouver les derniers opus sur la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de protocole, mais une demi-heure n'aurait pas suffi et pendant que l'émission se déroule, on n'était pas à l'abri d'un nouveau protocole, auquel cas il aurait fallu tout recommencer. C'est peut-être pour ça que il y a un appel à la grève dans le monde de l'éducation nationale. Le jeudi 13 janvier, on n'en sait pas plus que ça. Renseignez-vous auprès de tous ceux qui pourraient être au courant. Si vous faites partie de l'EDUCNAT ou si vous avez envie de soutenir l'EDUCNAT qui commence à en avoir marre quand même que ça soit un petit peu n'importe quoi entre les annonces et la réalité. On aurait pu vous parler de la rentrée littéraire en janvier, en septembre, oui, de rentrée. C'est comme ça. On évitera les mastodontes déjà plébiscités dans les médias à genoux et on préférera par exemple découvrir le roman graphique qui s'intitule « Un monde sans restaurant » réalisé en 2006 par le collectif prole.info. PROLE.info, ce sont des États-Uniens mais c'est souvent traduit. Et depuis, eh bien le roman graphique « Un monde sans restaurant » qui avait été fait en 2006 aux États-Unis a été traduit depuis peu en français et diffusé par les éditions Niette. On peut lire « Notre lutte n'est pas contre le fait de couper des légumes, de laver la vaisselle, de verser de la bière, ni même de servir de la nourriture à d'autres personnes. Elle est contre la façon dont toutes ces actions sont rassemblées dans un restaurant, séparées d'autres actions pour être intégrées à l'économie et faire croître le capital. Nous nous battons pour un monde où notre expression productive satisfera des besoins et sera une expression de notre vie, sans qu'elle ne nous soit imposée en échange d'un salaire. Un monde où nous produirons directement les uns une pour les autres et non pour les vendre les uns une aux autres. La lutte des travailleuses et travailleurs de la restauration vise en définitive un monde sans restaurant ni travail. Vous trouverez l'ouvrage dans les meilleures librairies, tiens, par exemple chez quilombo.net, librairie-quilombo.net et sur le site des éditions Niette, niette-édition.fr à partir du 14 janvier pour la modique somme de 8 euros. On aurait pu vous parler des beaufs qui parlent aux beaufs, les adeptes du clivage qui cherchent à diviser les populations pour bien marquer la limite entre leur électorat et les autres. Cette semaine, le banquier qui nous sert de président de la République s'est adressé à ses beaufs perso à travers le journal Le Parisien. Il a parlé populaire hein, puisque c'était dans Le Parisien. Donc, utiliser un gros mot, comme on dit aux enfants. Il a envie d'emmerder les non-vaccinés. Waouh ! Ah, c'est sûr, hein. Là, forcément, le débat prend de la hauteur. C'est très disruptif et tellement moderne quand on voit comment Éric Zemmour, un autre candidat, répond à un doigt d'honneur. La campagne électorale bat son plein. Les candidats qui souhaitaient parler de questions sociales prendre du temps, le temps de développer des arguments, le temps de discuter. Ah, ils sont complètement dépassés. Maintenant, il faut clasher. Ouais, on se retrouve dans une pauvre émission d'une pauvre chaîne avec des pauvres animateurs. Maintenant, il faut clasher avec les autres candidats, avec une partie de la population. Dire de la merde. Voilà le projet. Eh ben, ça promet. On aurait pu vous parler et justement prendre un petit peu de hauteur de vue avec l'arrivée de Enquête Critique tout attaché. .org. Enquête Critique, c'est au singulier. .org, une plateforme qui permet de diffuser des documents et des recherches en sciences sociales, notamment à partir des luttes. Des champs de recherche oubliés et peu connus, surtout avec un CNRS qui doit être compétitif, comme le demande son président-directeur général, Antoine Petit, nommé par le banquier qui nous sert de pété de la REP en 2018. Sur enquêtecritique.org, vous trouverez des podcasts, des brochures, des entretiens, des vidéos qui traitent de sujets comme la Kanaki, le commerce des armes sans les hurrahs de Le Drian, ou des formations à l'enquête critique, justement. Ça change des vidéos de chat et des émissions de CNews. Enquête au singulier, critique au singulier, .org, enquête critique tout attaché .org. On aurait pu vous parler du climat. Oui, l'année 2021 ne fut pas la plus chaude année depuis le milieu du 19e siècle, contrairement à 2020 et avant elle, 2019. Mais elle se place dans les 20 années les plus chaudes. Depuis donc un siècle, plus d'un siècle et demi. Et le mois de décembre fut particulièrement révélateur du dérèglement climatique, en particulier en Europe de l'Ouest. Ah oui, là, Noël, c'était au balcon. C'était même à moitié à poil au balcon. Les épisodes climatiques extrêmes, dans un sens trop froid ou dans un autre trop chaud, comme cet été dans l'Ouest de l'Amérique, continuent. De fait, les mêmes causes générant les mêmes effets, il faudrait essayer d'arrêter d'envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère déjà bien instable. Mais ça voudrait dire quoi ? Eh bien, ça voudrait dire limiter notre production. Donc réduire notre capacité à produire des richesses. Ah ben des richesses monétaires. Bah oui, il y a le pognon, que le pognon. Oui, forcément, si t'aides quelqu'un à faire quelque chose, ça s'appelle de la solidarité, de l'entraide. C'est une richesse, vous imaginez, on donne... Ah oui, non mais ça compte pas. Donc ça entraînerait également, si on veut limiter notre production, eh bien d'entraver l'accumulation pour les plus riches. Autant dire que cela est impossible dans un monde capitaliste où règne la philosophie économique du libéralisme. Quand même, on pourrait au moins essayer de ne pas nous cantonner à voir les humains, à nous les humains, comme de simples agents économiques, comme des ressources humaines, devant gagner leur droit à la vie en obtenant un salaire. Rien que ça, ça remettrait en cause une grande partie du libéralisme. Alors ne comptons pas sur nos soi-disant représentants qui cherchent seulement à combler les trous sur le marché de l'emploi sans savoir si l'épanouissement de l'embauché est au rendez-vous. Non. Par contre, aux prochaines échéances électorales, et entre elles d'ailleurs, réclamons du temps pour vivre et pas un emploi. Mais finalement, on a préféré vous parler d'un certain Karl Polanyi. Karl Polanyi, il naît en 1886 et il meurt en 1964. Il est ballotté par le siècle, juif et socialiste. Il quitte l'Autriche des années 30, devient prof d'histoire économique au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et c'est là qu'il développe des recherches sur le désencastrement de l'économie de la société. Une sorte d'autonomisation de l'économie vis-à-vis de la société. Extrait de La Grande Transformation, l'un de ses ouvrages phares aux origines politiques et économiques de notre temps, ça c'est le sous-titre, qui était paru en 1944. Un marché autorégulateur n'exige rien de moins que la division institutionnelle de la société en une sphère économique et une sphère politique. Cette dichotomie n'est en fait que la simple réaffirmation du point de vue de la société dans son ensemble de l'existence d'un marché autorégulateur. On pourrait avancer que cette séparation en deux sphères prévaut à toutes les époques et dans tous les types de sociétés. Mais cette inférence se fonderait sur une erreur. Aucune société, c'est vrai, ne peut exister sans qu'un système d'un type ou d'un autre assure l'ordre de la production et de la distribution des biens. Mais cela n'implique pas l'existence d'institutions économiques séparées. Normalement, l'ordre économique est simplement fonction de l'ordre social qui le contient. Nous l'avons montré, ni dans les conditions du tribalisme, ni dans celles de la féodalité, ni dans celle du mercantilisme. Donc là, il nous ramène à l'histoire, et en l'occurrence, aux époques reculées. Tribalisme, on pourrait remonter aux Gaulois, enfin aux Celtes, avant qu'ils deviennent ce qu'on appelle les Gaulois. Celle de la féodalité, ben, en plein Moyen-Âge, et le mercantilisme, ben, c'est cette fameuse période où on entend beaucoup parler de vente, achat, échange. En l'occurrence, les prémices de l'économie de marché, avec un certain Colbert. La société du 19e siècle, dans laquelle l'activité économique était isolée et attribuée à un mobile économique distinct, fut en vérité une nouveauté singulière. Un tel modèle institutionnel ne pouvait fonctionner sans que la société fût en quelque sorte soumise à ses exigences. Une économie de marché ne peut exister que dans une société de marché. C'est à partir de considérations générales que nous sommes parvenus à cette conclusion dans notre analyse du modèle du marché. Nous pouvons maintenant préciser les raisons de notre assertion. Une économie de marché doit comporter tous les éléments de l'industrie, travail, terre et monnaie incluses. Dans une économie de marché, cette dernière est elle-même un élément essentiel de la vie industrielle. Et son inclusion dans le mécanisme du marché a, nous le verrons, des conséquences institutionnelles de grande portée. Mais le travail n'est rien d'autre que ces êtres humains eux-mêmes, dont chaque société est faite, et la terre que le milieu naturel dans lequel chaque société existe. Les inclure dans le mécanisme du marché, c'est subordonner aux lois du marché la substance de la société elle-même. Vous avez entendu que dans cet extrait, il y a « Nous verrons, nous avons vu ». Ben ouais, on est à peu près au milieu du bouquin et c'est pour vous enjoindre à le lire. Je rappelle qu'il s'intitule, et on aura encore de nouveaux extraits, « La grande transformation aux origines politiques et économiques de notre temps », paru en 1944. Ainsi, pour Karl Polanyi, la sphère économique s'est développée sous l'impulsion du libéralisme pour prendre tellement de place qu'elle devient la société elle-même et parasite les rapports sociaux. Car pour les libéraux, les seules motivations qui permettent de fournir un travail, ce qui va vous amener à agir et à fournir un effort de travail, eh bien, les seules motivations sont la peur de la faim et l'appât du gain, comme l'affirme Adam Smith par exemple. En 1947, dans un article intitulé « La mentalité du marché est obsolète », Karl Polanyi revient sur l'étude de l'histoire économique. Le système économique est toujours immergé dans le social. Qu'il soit question de la cité-état de l'Antiquité, de l'empire despotique, du féodalisme, de la vie urbaine du XIIIe siècle, du système mercantilisme au XVIe siècle et du système réglementé au XVIIIe siècle. Les incitations, ont des sources particulièrement variées. Les coutumes et les traditions, les devoirs publics et l'engagement personnel, la pratique religieuse et l'allégeance politique, les obligations juridiques et les règles administratives, telles qu'elles sont établies par le prince, la commune ou la guilde. Ce sont le rang et le statut, la contrainte de la loi et la peur du châtiment, les honneurs publics et la réputation qui garantissent que l'individu contribue à la production. Cela ne veut pas dire que la peur des privations ou l'amour du profit doivent être complètement absents. Il existe des marchés dans tous les types de sociétés. Et la figure du marchand est familière à de nombreux types de civilisations. Mais les marchés isolés ne se structurent pas alors pour former une économie. L'idée qu'on puisse rendre universelle la motivation du profit ne traverse à aucun moment l'esprit de nos ancêtres. Jamais avant le deuxième quart du XIXe siècle, les marchés ne tiennent une place autre que subordonnée dans la société. Que s'est-il donc passé durant ce XIXe siècle ? Karl Polanyi explique la mise en place de la philosophie libérale comme une conséquence du machinisme, une conséquence de l'ère de la machine. Une conséquence qui modifie la culture économique occidentale, la faisant entrer dans une économie de marché. Nouvel extrait de la Grande Transformation. Une économie de marché est un système économique commandé, régulé et orienté par les seuls marchés. La tâche d'assurer l'ordre dans la production et la distribution des biens est confiée à ce mécanisme autorégulateur. On s'attend que les humains se comportent d'une façon à gagner le plus d'argent possible. Telle est l'origine d'une économie de ce type. Elle suppose des marchés sur lesquels l'offre des biens, y compris des services, disponibles à un prix donné, sera égale à la demande au même prix. Elle suppose la présence de la monnaie, qui fonctionne comme pouvoir d'achat entre les mains de ses possesseurs. La production sera donc commandée par les prix, car c'est des prix que dépendent les profits de ceux qui orientent la production. Et la distribution des biens demandera elle aussi des prix, car les prix forment les revenus, et c'est grâce à ces revenus que les biens produits sont distribués entre les membres de la société. Ces hypothèses étant admises, la production et la distribution des biens sont assurées par les seuls prix. L'autorégulation implique que toute la production est destinée à la vente sur le marché, que tous les revenus proviennent de cette vente. Il existe par conséquent des marchés pour tous les éléments de l'industrie, non seulement pour les biens, toujours en y incluant les services, mais aussi pour le travail, la terre et la monnaie. Leur prix étant appelé respectivement prix des données, prix des denrées, salaire, revenus fonciers ou rente et intérêts. Ces termes mêmes indiquent que les prix forment les revenus. L'intérêt est le prix de l'utilisation de la monnaie et forme le revenu de ceux qui sont en position d'offrir de la monnaie. Le loyer est le prix de l'utilisation de la terre et forme le revenu de ceux qui l'offrent. Le salaire est le prix de l'utilisation de la force de travail et forme le revenu de ceux qui la vendent. Enfin, les prix des denrées concourent au revenu de ceux qui vendent leurs services d'entrepreneurs, le revenu appelé profit, étant en réalité la différence entre deux ensembles de prix, celui des biens produits et d'autre part leur coût, c'est-à-dire le prix des biens nécessaires à la production des produits vendus. Si les conditions sont remplies, tous les revenus proviennent des ventes sur le marché. Et ces revenus suffisent exactement à acheter tous les biens produits. Suit un autre groupe de conditions supposées qui concernent l'État et sa politique. On ne doit rien permettre qui empêche la formation des marchés. Il ne faut pas permettre que les revenus se forment autrement que par la vente. De même, l'ajustement des prix au changement de la situation du marché ne doit faire l'objet d'aucune intervention, que ces prix soient ceux des biens, du travail, de la terre ou de la monnaie. Il convient donc non seulement qu'il y ait des marchés pour tous les éléments de l'industrie, mais qu'aucune mesure ou politique ne soit autorisée qui puisse influencer le fonctionnement de ces marchés. Il ne faut fixer ou réglementer ni le prix, ni l'offre, ni la demande. Seuls conviennent les politiques et les mesures qui contribuent à assurer l'autorégulation du marché en créant des conditions qui fassent du marché le seul pouvoir organisateur en matière économique. Voilà donc la révolution culturelle du XIXe siècle. La transformation du travail, de la terre et de la monnaie en marchandises. des marchandises que Karl Polanyi appelle marchandises fictives. Extrait de « La mentalité de marché est obsolète » paru en 1947 dans la revue Commentary. L'étape décisive fut la suivante. On transforma le travail et la terre en marchandises, c'est-à-dire qu'on les traita comme s'ils avaient été produits pour être vendus. Certes, l'un comme l'autre n'était pas réellement des marchandises, dans la mesure où ils n'étaient pas produits du tout, comme la terre, ou s'ils l'étaient, ils n'étaient pas destinés à la vente, comme le travail. Et pourtant, jamais fiction plus efficace ne fut imaginée. En achetant et en vendant librement le travail et la terre, on leur imposa le mécanisme du marché. Il y eut désormais offre de travail et demande de travail. Il y eut offre de terre et demande de terre. Il y eut en conséquence un prix de marché pour l'emploi de la force de travail, appelé salaire, et un prix pour l'utilisation de la terre, appelé rente. Les marchés du travail et de la terre se sont constitués à l'image de ceux des marchandises que les facteurs concouraient à produire. L'ampleur réelle d'un tel changement est mieux perçue si l'on se rappelle que les mots « travail » et « terre » n'indiquent pas autre chose que respectivement l'homme et la nature. La fiction de la marchandise consigne le destin de l'homme et de la nature au fonctionnement d'un automate qui suit sa routine et est régi par ses propres lois. Voilà ce qui gêne profondément Karl Polanyi, le désencastrement de la sphère économique de l'ensemble de l'ordre social. L'homme et la nature devenus marchandises, ainsi Karl Polanyi rappelle dans « La substance de l'homme », un autre ouvrage, dans « La grande transformation » également, que cette construction culturelle, cette fiction, naît avec le libéralisme. Cette imposition du cadre économique ne peut fonctionner que si les institutions n'interviennent pas. Donc pas de fixation de salaire par les pouvoirs publics. Les rois, les princes ou les guildes ne doivent pas non plus intervenir. Liberté d'échange des terres sans intervention des mêmes pouvoirs publics. Et le marché, autorégulateur, c'est du moins la fiction qui nous est proposée par la philosophie libérale, doit faire le reste. Dans de longs développements dans ses ouvrages, Karl Polanyi revient sur le 19e siècle comme véritablement époque charnière. Époque charnière dans les changements dans la vision du pauvre, dans la création des workhouses, dans les ateliers obligatoires et bien sûr dans la multiplication des machines. Revenons à la grande transformation. Tant que la machine ne fut qu'un outil peu coûteux et peu spécialisé, la situation resta la même. Le simple fait pour le cottager d'avoir la possibilité de produire dans le même temps de plus grandes quantités qu'auparavant pouvait l'inciter à utiliser les machines pour accroître ses gains. Mais par lui-même, ce fait n'affectait pas nécessairement l'organisation de la production. Que les machines bon marché fussent la propriété de l'ouvrier ou du marchand, cela mettait de la différence dans la position sociale des deux parties et modifiait presque certainement les gains de l'ouvrier, qui se trouvait plus prospère tant qu'il possédait ses outils. Mais cela n'obligeait pas le marchand à se transformer en capitaliste industriel ou à se borner à prêter son argent à ceux qui l'étaient. L'écoulement des biens cessait rarement. La plus grave difficulté continuait à venir de l'approvisionnement en matières premières, qui s'interrompait parfois sans qu'on pût rien y faire. Mais, même en pareil cas, la perte n'était pas lourde pour le marchand possesseur de machines. Ce ne fut que par l'arrivée de la machine en tant que telle, mais par l'invention de machines et d'installations complexes et par conséquent spécialisées, que se transforma complètement la relation du marchand avec la production. Bien que la nouvelle organisation de la production eût été introduite par le marchand, fait qui détermina le cours entier de cette transformation, l'utilisation de machines et d'installations complexes impliquait la mise en œuvre du système de la fabrique et de plus une modification décisive de l'importance relative du commerce et de l'industrie en faveur de cette dernière. La production industrielle cessa d'être un élément secondaire du commerce que le marchand avait organisé comme une entreprise d'achat et de vente. Elle impliquait désormais un investissement à long terme, avec les risques que la chose comporte. Ces risques n'étaient supportables que si la continuité de la production était raisonnablement assurée. Mais plus la production industrielle se compliquait, plus nombreux étaient les éléments de l'industrie dont il fallait garantir la fourniture. Trois d'entre eux étaient naturellement d'une importance primordiale : le travail, la terre et la monnaie. Dans une société commerciale, leur offre ne pouvait être organisée que d'une seule manière : on devait pouvoir les acheter. Il fallait donc les organiser en vue de la vente sur le marché, en d'autres termes comme marchandises. L'extension du mécanisme du marché aux éléments de l'industrie, travail, terre et monnaie fut la conséquence inévitable de l'introduction du système de la fabrique dans une société commerciale. Il fallait que ces éléments fussent mis en vente. Cela ne signifiait pas autre chose que la nécessité d'un système de marché. Nous savons que dans un tel système, les profits ne sont assurés que si l'autorégulation est garantie par des marchés concurrentiels interdépendants. Le développement du système de la fabrique ayant été organisé comme partie d'un processus d'achat et de vente, le travail, la terre et la monnaie devaient par conséquent être transformés en marchandises afin que la production continuât. Bien sûr, il n'était pas possible d'en faire vraiment des marchandises, car à la vérité, il n'était pas produit pour être vendu sur le marché. Mais la fiction qui voulait qu'il en fût ainsi devint le principal organisateur de la société. De ces trois éléments, le travail se détache. Labor est un terme technique qui désigne les êtres humains du moment qu'ils ne sont pas employeurs mais employés. Il s'ensuit que, dorénavant, l'organisation du travail devait changer concurremment avec l'organisation du système du marché. Mais comme l'organisation du travail n'est qu'un autre terme pour désigner les formes de vie des gens du peuple, cela veut dire que le développement du système du marché devait s'accompagner d'un changement dans l'organisation de la société elle-même. La société était devenue, sur toute la ligne, un appendice du système économique. Or, la création du marché autorégulateur n'a rien de naturel, contrairement à ce que nous affirme le credo libéral. Pour s'imposer, le marché doit acculturer les populations. Dans la grande transformation, Karl Polanyi utilise une analogie entre la condition des colonisés au XXe siècle et les occidentaux à partir du XVIIIe. Les conséquences de l'établissement d'un marché du travail sont manifestes aujourd'hui dans les pays colonisés. Il faut forcer les indigènes à gagner leur vie en vendant leur travail. Pour cela, il faut détruire leurs institutions traditionnelles et les empêcher de se reformer. Puisque dans une société primitive, l'individu n'est généralement pas menacé de mourir de faim, à moins que la société dans son ensemble ne soit dans ce cas triste. Dans le système territorial des CAFRE, par exemple, on est dans le sud-est, je dis des bêtises, ouais, dans le sud-ouest de l'Afrique. Dans le système territorial des CAFRE, par exemple, la misère est impossible, il n'est pas question que quelqu'un, s'il a besoin d'être aidé, ne le soit pas. Voilà ce que nous dit un certain Maher, An African People in the 20th Century, en 1934, c'est un anthropologue. Aucun Quayaquilt, alors là on est en Amérique du Nord, ce sont des Indiens, n'a jamais couru le moindre risque d'avoir faim. Là, c'est un certain Loeb, The Distribution and Function of Money in Early Society, in Essays in Anthropology, 1936. Il n'y a pas de famine dans les sociétés qui vivent à la limite de la subsistance. C'est ce que dit Herskovitz, The Economic Life of Primitive Peoples, 1940, encore un anthropologue. C'était également un principe admis qu'on était à l'abri du besoin dans la communauté de village indienne. Et pouvons-nous ajouter dans presque n'importe quel type d'organisation sociale jusqu'à l'Europe du début du XVIe siècle. Quand les idées modernes sur les pauvres proposées par l'humaniste Vives furent débattues en Sorbonne. C'est parce que l'individu n'y est pas menacé de mourir de faim que la société primitive est, en un sens, plus humaine que l'économie de marché et en même temps moins économique. Or, ce que le blanc pratique aujourd'hui encore à l'occasion dans les contrées lointaines, à savoir la démolition des structures sociales pour en extraire l'élément travail, des blancs l'ont fait au XVIIIe siècle à des populations blanches avec les mêmes objectifs. La vision grotesque de l'état de Hobbes, un léviathan humain dont le vaste corps est fait d'un nombre infini de corps humains, a été ramenée à peu de choses par la construction du marché du travail de Ricardo. Un flot de vie humaine dont le débit est réglé par la quantité de nourriture mise à leur disposition. Quoiqu'il reconnût l'existence d'une norme coutumière au-dessous de laquelle aucun salaire d'ouvrier ne pouvait s'enfoncer, il pensait aussi que cette limitation n'entrait en vigueur que si le travailleur en était réduit à choisir entre mourir de faim ou offrir son travail sur le marché au prix qu'il pourrait en tirer. Cela éclaire d'ailleurs une omission des économistes classiques qui resterait sans cela inexplicable. Pourquoi estimait-on que seule la sanction de la faim était capable de créer un marché du travail qui fonctionne et non l'appât de gains élevés ? Ici aussi, L'expérience coloniale a confirmé celle des économistes. Car plus les salaires sont élevés, plus faible est l'incitation à faire des efforts pour les indigènes qui, à la différence des Blancs, ne sont pas contraints par leurs critères culturels à gagner le plus d'argent possible. Cette analogie est d'autant plus frappante que les ouvriers des premiers temps, eux aussi, abhorraient l'usine où ils se sentaient dégradés et torturés, comme l'indigène qui, souvent, ne s'est résigné à travailler à notre manière que sous la menace du châtiment corporel, si ce n'est de la mutilation physique. Les manufacturiers de Lyon du XVIIIe siècle recommandaient les bas salaires essentiellement pour des raisons sociales. Seul un ouvrier surmené et opprimé, raisonnait-il, renoncerait à s'associer avec ses camarades et à échapper à la condition de servitude personnelle dans laquelle son maître pouvait lui faire faire tout ce qu'il lui demandait. Par ses exemples et ses conclusions, Karl Polanyi démontre que le marché autorégulateur, loin d'être naturel, a en plus le défaut de prendre beaucoup de place dans les relations sociales, au point de faire de l'économie l'essence même des relations sociales, et d'incorporer dans la sphère économique du marché la vie même des travailleurs. Une telle nuisance ne pouvait rester sans réaction. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. De fait, on peut vous dire aussi que ce 8 janvier, partout en France, des manifestations auront lieu contre le pass vaccinal qui doit remplacer le précédent. Au Mans, la rue est abandonnée depuis plusieurs mois aux antipasses plutôt proches de Kiwitas et de l'extrême droite. Mais ailleurs dans le pays, des manifestations rappellent que le traitement gouvernemental de la crise sanitaire réduit avec une facilité sans pareil nos libertés. Le droit de manifester réduit par les confinements et les couvre-feux avant que ça s'avère totalement illégal. La liberté de circulation entravée selon votre schéma vaccinal. La collaboration des tenanciers de bars, de restaurants, de lieux de culture sous peine d'amende dans le contrôle de tous ceux et de toutes celles qui voudraient avoir accès à leurs établissements. L'installation de logiciels d'autocontrôle sur les portables de tout un chacun. La société de contrôle rêvée par les adorateurs de Big Brother avance à grands pas et sous couvert de protection des populations. Et cela sans beaucoup de résistance. Alors ben voilà des revendications auxquelles je m'associe. Trouvez sur le site Nantes Révoltée pour appeler à des manifestations ce samedi 8 janvier un petit peu partout en France. Nous exigeons l'accès aux soins pour toutes et tous, la levée des vaccins, des brevets sur les vaccins, la socialisation du pharmaceutique, la suppression du pass sanitaire, l'abandon du projet de pass vaccinal, le remboursement inconditionnel des tests PCR, des embauches de soignants et le retour des lits qui ont été supprimés depuis 10 ans, une stratégie internationale égalitaire en termes de santé publique, l'abolition des états d'urgence, de la loi sécurité globale et de la loi séparatisme et de toute la société de contrôle et de surveillance qui ont permis l'installation de ces passes antisanitaires. Voilà, ça fait déjà beaucoup. Sinon, le 11 janvier... les soignants manifestent, ça sera à 10h au Mans, place de la préfecture. Pourquoi ? Bah, ça serait bien de rappeler à ceux qui se font passer pour nos représentants que la société, en l'occurrence un certain nombre d'activités dans la société et notamment la santé, ne sont pas faits pour faire du profit. Mais non, c'est même antinomique. Alors du coup, petite manif le mardi également 11 janvier. Donc là, c'est à 10h à la préfecture pour les soignants, si vous voulez les soutenir. Et si vous voulez soutenir les postiers, c'est à 14h. Voilà. Eh ben, on va se quitter parce que là, on est carrément totalement à la bourre. Donc je vous dis quoi ? Bah, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.